La République centrafricaine, comme les autres pays de la sous-région, exploite ses bois, mais beaucoup de Centrafricains se demandent à qui profitent les retombées de cette exploitation. Pourquoi le pays exporte du bois, mais ses écoles manquent de tables et bancs alors que les planches sont toujours chères sur les marchés de la place. Patara, le débat politique de Radio Ndekeluka, sous la proposition de ses auditeurs, s'intéresse à ce sujet. Et pour en débattre, je reçois Augustin Agou, directeur général de la société d'exploitation forestière Timberland, ancien député du premier arrondissement de Bangui et président du parti La Renaissance pour le développement durable RDD. Monsieur Agou, bonjour.
Bonjour Monsieur Armando.
Monsieur Gildas Soulet, bonjour.
Bonjour Monsieur Armando.
Directeur général de l'environnement au ministère de l'Environnement. Nous avons aussi Christian Emendota, journaliste indépendant et observateur de la vie sociale. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour à tous les auditeurs.
Armando Nguendi, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le débat politique du premier média centrafricain, Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Une fois de plus, bonjour. Avant d'entrer dans le vif de notre débat, nous tenons à faire cette mise au point. Nous avons invité Monsieur Oclefort Fiongai, ingénieur forestier, directeur général des eaux de forêt, chasse et pêche. Il a accepté de prendre part à ce débat. Malheureusement, il ne s'est pas rendu disponible au dernier moment, justifiant que malgré notre prise de contact, il va falloir saisir sa hiérarchie par écrit. Et c'est à quelques heures du débat qu'il a décliné l'offre. Une manière de nous pousser à reporter le débat. Mais pour le respect de nos auditeurs, nous sommes obligés de le tenir avec ceux qui respectent nos auditeurs et qui sont là. Ouvrons ce débat avec vous, Monsieur Agou. Comment se fait l'exploitation du bois en République centrafricaine?
Merci, Amando, de l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui en tant qu'exploitant de la forêt de notre pays, la République centrafricaine, pour éclairer l'antenne du peuple centrafricain, surtout les auditeurs de la Radio Ndekeluka. C'est un sujet très, très important parce qu'il y a trop de dites par rapport à les activités d'exploitation forestière de notre pays. Alors, pour répondre précisément à la question que vous venez de me poser, je précise que le massif forestier de notre pays, M. Armando, joue un rôle capital, très, très important. Et notre activité en tant qu'exploitant forestier est encadrée par la loi. Il y a la loi 08.022. du 17 décembre 2008, que nous appelons le code forestier. Donc c'est cette loi-là qui encadre toutes les activités d'exploitation forestière en République centrafricaine. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas me tromper, l'exploitation forestière dans notre pays se porte très très bien. Les retombées sont là, visibles. J'aurai l'occasion, pendant cette émission, de vous donner les chiffres. Comme ça, pour vous éclairer un peu. Donc, les retombées au plan économique et social sont valables, visibles un peu partout. Sauf si vous me donnez l'occasion d'aller...
Mais lorsque vous parlez des retombées, ça veut dire que vous parlez de l'ensemble du territoire ou bien vous parlez de votre société?
Non, je parle d'une manière globale. Après, en tant que gérant de la société forestière, si vous me donnez l'occasion, je pourrais donner les chiffres. Ouais. Les chiffres concernant ce que nous payons comme taxes et autres.
On y revient.
Voilà, ça concerne Timberland. Mais quand je parle de retombées, je parle d'une manière globale, d'une manière générale de l'exploitation forestière de notre pays, la République centrafricaine. Voilà. Les chiffres sont là.
Oui, comme vous l'avez dit, on y revient tout à l'heure. Monsieur Christian Emendota, en tant qu'observateur de la vie sociale, comment est-ce que vous voyez l'exploitation du bois centrafricain se fait en ce moment?
Bon, moi je vois le visuel. Quand je dis le visuel, j'habite Bimbo. Quand je quitte Bimbo pour aller au centre-ville, vous arrivez avant le commissariat de PTB, vous voyez plein de planches de bois. Donc on travaille, on vend, on fait du commerce du bois. Ce bois vient d'où? On ne sait pas trop. Comment cela se commercialise? Comment c'est coupé? On ne sait pas trop. Donc en tant qu'observateur, je constate qu'il y a beaucoup de bois en République centrafricaine. De l'autre côté également, quand vous allez du côté de Mbaïki, vous êtes au PK, disons PK 10, vous avez Centra Bois, qui, je pense, industriellement également fait le commerce de bois. On voit beaucoup de bûches, mais également on constate qu'il y a beaucoup de troncs d'arbres qui sont remorqués à destination de l'extérieur. On n'a malheureusement pas toujours toutes les informations sur la destination de ces bois. Et en tant que citoyen, on devait avoir, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir les chiffres que mon frère Agou va nous donner tout à l'heure pour savoir quelles sont les retombées sur la vie du Centrafricain? Parce que nous, on constate, par exemple, quand vous arrivez dans la zone de la Lobaye, il y a beaucoup de plaintes. On parlait tout à l'heure de table blanche, je pense qu'on reviendra sur la discussion. Il y a ce paradoxe, on voit qu'il y a du bois, nous sommes dans une zone forestière, on voit circuler énormément de bois, mais lorsque vous arrivez dans certaines de ces régions, c'est des plaintes, c'est une sorte de paupérisation. Il y a même des villages qui n'ont pas de table blanche parce que, en pleine zone forestière, hein, je le précise, il y a des zones forestières, il y a des villages où vous n'avez pas de table banc.
Où l'exploitation du bois se fait.
Où l'exploitation du bois se fait. Et il y a des retombées, il y a toujours des plaintes. On écoute à travers les médias qu'il y a souvent des plaintes. Mais je pense qu'au cours de ce débat, on reviendra avec des éléments concrets. Parce qu'il faudrait qu'on sache combien le bois, aujourd'hui, on parle du bois qui fait partie des ressources naturelles de notre pays. On ne parle pas d'or, on ne parle pas de diamants, on ne parle pas d'autres ressources minières. Mais ce bois, combien ça rapporte dans les caisses de l'État? Il faudrait qu'on nous le dise. Et c'est dommage que le responsable du ministère des Eaux et Forêts ne soit pas là pour nous éclairer davantage. Mais on reviendra. Moi, j'ai des chiffres. J'ai consulté un peu sur Internet pour avoir des informations. Et je suis tombé sur un très bon document fait par Santa Bois qui résume un peu toutes les difficultés, tous les avantages et les inconvénients de l'exploitation du bois.
On écoute monsieur Gilles Dassoulé. Vous êtes directeur de l'environnement au ministère de l'environnement, bien sûr. Quelles sont les modalités d'exploitation du bois et grumes centrafricains? Comment ça se fait? Parce que c'est vous qui gérez aussi l'environnement.
Merci monsieur Armando. Je viens aujourd'hui dans ce débat, surtout pour parler des innovations, des nouvelles innovations environnementales qui sont mais avec des nouveaux instruments au niveau sous-régional par la COMIFAC, surtout en ce qui concerne l'évaluation environnementale et sociale. Il y a des nouveaux instruments qui sont mis en place. Et il y a un premier atelier qui a eu lieu à Bangui récemment, au mois de fin avril-mai, qui avait prévu déjà refaire tout ce qui a été traditionnellement fait au niveau des sociétés forestières, à savoir, à l'époque, les gens faisaient les études socio-économiques. Maintenant, c'est l'évaluation environnementale sociale qui va prendre place, avec des innovations et des nouvelles méthodes de traitement au niveau environnemental que social. Donc, ma présence aujourd'hui, c'est de vous dire déjà que la loi numéro 07.018 du 27 décembre 2007 portant code de l'environnement a déjà pris en compte l'évaluation environnementale en milieu dans le secteur forestier. Et les dispositions de cette loi ont prévu que cela doit se faire d'une manière harmonieuse pour permettre une bonne exploitation et permettre aussi à la société de se développer comme il le faut.
Mais quelle est la part du ministère de l'Environnement dans l'exploitation du bois dans le pays?
Effectivement, l'environnement est là pour contrôler parce que c'est un département transversal. Nous, on suit en même temps les aspects écosystémiques et les aspects sociaux. Je tiens là, monsieur, d'abord à féliciter le directeur général de Timberland, monsieur Agou, qui ont déjà leur étude environnementale qui est faite. L'audit est déjà presque sorti. Ils attendent peut-être leur certificat de conformité qui a pris un peu de retard. Ça, c'est les quelques sociétés qu'on est en train de leur jeter des fleurs. Et en plus de Timberland, il y a Sefka aussi qui est dans la course et le Centre à bois. Comme vous m'avez posé la question, c'est un ensemble de tout. Nous, on gère tous les aspects en passant par le bois et la société. C'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes ces sociétés qui se lancent dans ce nouvel dynamisme de l'évaluation environnementale vont vouloir alléger la peine de la société, de la population environnante, parce que cette étude prend en compte tout ce qui concerne non seulement la forêt, mais tous les aspects, tous ceux qui vivent avec la forêt et les éléments constitutifs de la forêt.
Vous travaillez, comme vous l'avez dit, hein, comme un accord avec vos collègues de Eaux et Forêts. C'est pour ce que vous allez nous donner comme chiffre tout à l'heure avec les actions concrètes. Selon la loi, après l'abattage de bois, il faut aussitôt procéder à la reforestation. Quelle est la politique que votre institution a mise en place pour protéger l'environnement, surtout après l'exploitation des bois?
Comme je vous ai dit, avec les innovations, les dernières innovations que la COMIFAC est en train de mettre en place, c'est-à-dire on est en train de pousser toutes les forestières, sociétés forestières à la certification, c'est-à-dire à être dans la réglementation, la conformité avec la loi. C'est pour dire que traditionnellement, comme je vous ai dit au début, la loi avait prévu, mais on n'avait pas pris en compte très tôt l'évaluation environnementale et sociale dans le secteur forestier. C'est maintenant que les sociétés dynamiques, comme je venais de citer Timberland et les autres, sont en train de se lancer dans cette dynamique de l'évaluation environnementale et sociale. Et il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui constituent ce document. Et c'est à la suite de chaque évaluation environnementale des sociétés qu'on peut déjà dire à quel niveau l'environnement est inséré dans le secteur forestier.
Oui, cette même question à Monsieur Agou avant de continuer dans ce débat avec la déforestation ou bien lorsqu'on abat un arbre ou bien on exploite du bois, mais après il faut aussi faire le reboisement. Est-ce que dans votre institution, vous prenez ça en charge, en compte?
C'est une question pertinente que vous posez. Dans chaque entreprise forestière, il y a une direction technique appelée aménagement. Mais par rapport à la loi dont je vous ai cité tout à l'heure, il s'agit de la loi 08.22. Et nous, chaque société forestière est assujettie au paiement des taxes, appelées taxes d'abattage et taxes de reboisement. Donc, je précise bien, parce que je vous dis tout à l'heure que c'est un débat très, très important pour éclairer le peuple centrafricain. Chaque société opérationnelle forestière dans notre pays est assujettie au paiement des taxes d'abattage et des taxes de reboisement chaque mois. Tous les mois. Et donc, cet argent concernant le reboisement est donné au ministère des Finances.
Et c'est là que votre chiffre ou vos chiffres sont importants.
Justement, je vous dis que c'est un débat très, très important. Parce que nous-mêmes, en tant que gérants de sociétés forestières, le plus souvent, nous, quand on se rend compte de la population, tout le monde se pose la question. Parce que la population se demande, mais on voit le bois, comme disait le frère ici, le bois chargé chaque jour dans les camions CBH, mais on ne voit pas les retombées, pas visibles, dans les zones où on exploite la forêt. Donc, la population s'interroge. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation, pour éclairer, pour expliquer comment se passent les activités d'exploitation forestière dans notre pays, la République centrafricaine. Donc, je vous précise déjà que chaque société forestière est assujettie au paiement des taxes d'abattage et des taxes de reboisement, et cela se fait chaque un mois. Et donc, vu la loi, cette somme d'argent de reboisement devait permettre au ministère de tutelle de s'occuper de ce que vous venez de dire. Maintenant, il faut que je vous donne, si vous me permettez,
allez-y,
d'aller vraiment dans le vif du sujet. Et donc, les retombées sur le plan économique concernant les activités d'exploitation forestière. Les retombées sont énormes. D'abord, vous devez savoir que chaque société forestière est appelée à payer ce qu'on appelle le loyer par rapport à la superficie attribuée. Donc, il y a une superficie qui est attribuée à chaque société.
Comme hectare.
Forestière. Oui, comme hectare, justement. Vous pouvez avoir 2000, vous pouvez avoir 3000, vous pouvez avoir 4000 hectares. Mais chaque année, vous êtes tenu de payer le loyer au niveau du trésor public.
C'est ça le langage ou bien c'est le loyer de qui?
Non, c'est le langage technique.
Ouais,
c'est-à-dire que on appelle ça quoi? C'est comme le titre foncier.
D'accord.
Voilà, c'est le frais. Quand vous avez votre, un immeuble avec titre foncier, chaque année, vous êtes appelé à payer. Et donc, chaque société forestière est appelée à verser cette somme d'argent au trésor.
C'est combien par exemple?
Non, ça varie de la superficie. Ça varie de la superficie, comme je vous l'ai dit. C'est pas un montant stable.
Et par exemple, pour votre superficie?
Pour notre superficie, ça peut atteindre 150 millions. Ça peut être 150 millions. Mais ça, c'est rien. Maintenant, je reviens. L'exploitation forestière, en RSIA, contribue, par rapport aux retombées, à 10% de notre PIB. J'ai dit bien 10% de notre PIB. Vous savez, le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est-à-dire que c'est une évaluation de la richesse nationale créée au cours d'une année. Donc, on évalue toutes les richesses nationales pour une année. L'exploitation forestière contribue à hauteur de 10% de notre PIB. Ça, c'est le premier point que vous devez noter. Et donc, je reviens maintenant par rapport aux retombées concernant les taxes. Si je vous donne, par exemple, en termes de recettes budgétaires, recettes budgétaires de notre pays, la République centrafricaine, l'activité d'exploitation forestière, au moins, on évalue à 35% des recettes budgétaires de la République centrafricaine. Vous comprenez, M. Amando, si je parle de recettes budgétaires aujourd'hui, si l'État donne dans le budget qu'il y a 100 milliards de recettes budgétaires, 35 milliards viennent des sociétés forestières. Ça, deuxième point. Et également, il y a ce qu'on appelle l'exportation, c'est-à-dire que les taxes d'exportation. Vous savez, chez nous, nous ne produisons presque pas. On importe presque tout. Et aujourd'hui, ce que la SCA exporte à l'extérieur, c'est le bois. Et ça représente 50%. Je dis bien 50% de nos exportations à l'étranger, c'est le bois. Et comme vous savez, c'est grâce à ces exportations du bois que les banques de la place reçoivent ce qu'on appelle les devises. Parce qu'une banque, pour fonctionner, pour que Ndekeluka amène un document de transfert d'argent, il faut que la banque ait des devises dans le compte de correspondant pour exécuter l'opération. Donc, c'est grâce aux exportations de bois, à hauteur de 50%, que les banques de la place reçoivent ce qu'on appelle les devises. Ça, c'est également important. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les droits de sortie. C'est-à-dire les droits de sortie du bois. Monsieur Amando, chaque jour, je dis bien chaque jour, le bois ne peut pas quitter le territoire centrafricain sans être accompagné par les documents exigés par la loi. Et donc, chaque société forestière est appelée à aller faire ce qu'on appelle le formaté des droits de sortie au niveau de la société comme la SJS, au niveau du ministère du Commerce et au niveau de la douane. Alors, je peux vous donner le détail. Ça va aider le peuple centrafricain. Par rapport au droit de sortie, au niveau de la douane, donc d'une manière globale, le taux de droit de sortie se chiffre à 11,75% de la valeur du bois que vous voulez exporter. 11,75% que nous payons au cordon douanier.
Est-ce que vous pouvez nous ramener sur le chiffre financier? Parce qu'avec les virgules, le pourcent, là, c'est
Mais,
un peu difficile.
Mais, M. Armando, je ne peux pas...
C'est trop technique.
Non, M. Armando, en tant que gérant d'une société... Timberland, je ne peux pas prétendre avoir tous les chiffres des autres.
Non, c'est sur vous, sur votre...
C'est des milliards. C'est pour ça que je vous ai dit que si on parle de recettes budgétaires, les sociétés forestières contribuent à hauteur de 35%. Et donc, comme vous voyez, je vous dis que ça se passe de jour au jour. Si Timberland veut exporter aujourd'hui le bois pour un montant, par exemple, de 100 millions, nous devons déverser les 11,75% cash à la douane. Pour que la douane nous délivre un document, ça s'appelle BAE, bon à enlever. Vous comprenez ça? On doit aussi aller au niveau, parce qu'il faut que vous compreniez ce que c'est que les retombées du point de vue économique.
C'est ça, c'est pour cette raison que nous sommes là.
Donc, quand je parle de retombées du point de vue économique, une société forestière, pour exporter son bois, doit aller à niveau de la société SJS.
Ça, vous l'avez déjà dit. Est-ce que vous finissez déjà les chiffres pour qu'on donne la parole aux autres et on y revient un à un avec vous, si ça vous va, M. Agou?
Bon, les retombées sont là. Il y a les droits de sortie au niveau de la douane, il y a au niveau du ministère du Commerce, que nous payons également, il y a au niveau de la société comme SJS, il y a les transitaires, donc c'est énorme. C'est énorme, mais bon, le temps fait de vous que je pourrais rentrer dans les détails.
Non, vous allez revenir. Je vois, monsieur Christian Emendota, vous étiez tout à l'heure sur un document, vous avez dit en ligne, qui parle de chiffres. Est-ce qu'on peut avoir ces chiffres-là, ce que vous êtes en train de lire, par exemple?
Oui, merci Armando. En fait, il y a toute une documentation que l'on retrouve sur Internet. Sur les ressources que le bois procure à la République centrafricaine. Moi, j'écoute M. Agou, c'est vrai, c'est les pourcentages que l'on donne, mais il n'y a pas de chiffres concrets. S'il y a des chiffres concrets, par exemple, par mois, combien Timberland ou Centrabois, bon, il ne peut pas parler au nom de Centrabois ou d'autres structures, mais combien Timberland donne à l'État par mois, par exemple, chaque mois. Ça permet aux centrafricains de comprendre, parce que ce que on essaie de ne pas dire actuellement, mais que l'on doit dire, c'est la gestion du bois en République centrafricaine, la bonne gouvernance du bois en Centrafrique. On sait que ce bois est mal géré en termes de retombées. On donne peut-être des millions, pour ne pas dire des milliards, dans les caisses de l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce qu'on fait déjà avec ce bois? Pas ceux qui sont forcément exportés, mais ceux qui sont utilisés sur place, ceux qui sont abattus sur place, ceux qui sont travaillés sur place et que l'on retrouve au bord de nos routes et que l'on utilise également pour la construction de certaines de nos habitations. Voilà le problème. Il faudrait que l'on sache. Et il y a aussi la question de controverse autour de ce bois. Vous savez que la crise militaro-politique de notre pays a profité à beaucoup de structures commercial ou bien industriel, que ce soit le bois ou les ressources minières. Global Witness, déjà en 2015, tirait la sonnette d'alarme, et je vous lis cette partie. Échanges commerciaux, des entreprises européennes ont acheté du bois à des sociétés forestières de la RCA qui ont payé en 2013, déjà en 2013, plus de 3,5 millions d'euros. Si vous multipliez par 655 francs CFA, ça vous fait des milliards. Et cet argent n'était pas entré dans les caisses de l'État, puisqu'on dit que c'était payé aux rebelles pour continuer d'exploiter les forêts en toute illégalité à grande échelle et pour des bénéfices considérables. Ça, c'est un rapport qui existe depuis 2013. Il y a d'autres rapports également qui existent, qui dénoncent cette façon d'exploiter, mais qui ne rapportent pas aux populations. Quand je parle de population, c'est nous. Vous allez à Bambio, vous allez à Nola, vous allez à Mbaïki, qui est juste à côté ici, mais vous allez voir dans quel état, alors que les bois sont exploités, mais dans quel état vivent ces populations. On vous dira qu'on paye des taxes, c'est vrai qu'on paye des taxes, mais le gros problème, c'est la gestion de ces différentes taxes qui sont versées dans les caisses de l'État. Et manifestement, c'est très mal géré.
Mais le vrai problème, comme vous l'avez dit, c'est au niveau de la gestion. Mais désolé que le ministère des Eaux et Forêts, qui devrait nous donner plus d'informations sur ce point.
C'est ça qui est dommage. Je m'attendais à ce que un responsable des Eaux et Forêts puisse venir. Il y a toute une documentation. On peut, mais parler, j'allais dire, en l'absence de ceux qui sont concernés pour nous donner des réponses, ça risque de biaiser un tout petit peu le débat.
Oui, oui monsieur, vous voulez répondre.
Non, monsieur Amando, j'ai dit, c'est un sujet très, très important. Il faut que vous donniez le temps pour expliquer. Parce que si je ne vous donne pas les détails, comment ça se passe, vous ne saurez jamais combien les sociétés forestières contribuent par rapport au trésor public. Donc, je donne maintenant, si vous voulez, en ce qui concerne Timberland. Nous, Timberland, nous intervenons, nous exploitons le bois dans les 6 communes. Il y a la commune de Nola, vous avez la commune de Bilolo, vous avez la commune de Salo, la commune de Bania, la commune de Wapo et Sosona Kombo. Mm-hmm. Donc il y a 6 communes. Et la loi nous oblige à contribuer dans le budget de chaque commune. En faisant quoi? En payant mensuellement ce qu'on appelle les taxes d'abattage et de reboisement. Le taux est de 35% à 25%. Et je le dis, c'est par mois, chaque un mois. Ça veut dire que l'année dure 12 mois. Ça veut dire que 12 mois de l'année, chaque société forestière est appelée à contribuer dans le budget de chaque commune là où cette société exploite. Et donc, par exemple, en ce qui concerne Timberland. Timberland, en moyenne, par mois, nous versons dans la commune de Nola entre 11 millions à 12 millions de francs CFA par mois. Par mois. Et donc, ça, c'est uniquement Timberland. J'ai devant moi un tableau avec des numéros de chèques. Il faut que vous compreniez. Ça se passe comment? Même si aujourd'hui le ministère n'est pas là, je peux vous aider. Ça se passe comment? À la fin du mois, chaque un mois, toutes les sociétés forestières sont appelées à déposer au niveau du ministère des Eaux et Forêts ce qu'on appelle le mouvement de bois. C'est-à-dire que le bois que vous avez abattu dans le mois, ça fait combien? Vous déclarez.
Mais est-ce que déjà sur le terrain, vous faites ça accompagné des
agents? Oui, il y a la SIS. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que si vous ne me laissez pas suffisamment de temps pour donner dans les détails, vous n'allez pas vous en sortir parce que c'est encadré. Je vous ai dit que l'activité forestière est encadrée par la loi. Et le gouvernement a signé un contrat avec une société privée, la SIS, que vous connaissez. La SIS devait contribuer énormément à ce débat. Donc, c'est la SIS qui a signé un contrat avec le gouvernement sud-africain pour sécuriser les recettes d'exploitation du bois. Dans chaque société forestière, la SGS a affecté ses techniciens qui sont là-bas. Je prends le cas de Timberland. J'ai 4 ingénieurs qui ne sont pas des salariés de Timberland, ni qui ne sont pas des fonctionnaires de l'État, mais qui sont des salariés d'une société privée, la SGS, qui sont affectés sur le chantier et qui contrôlent chaque bois abattu. C'est eux qui sont habilités à codifier, à donner des codes à chaque bois que nous coupons. Est-ce que vous comprenez? Et donc, eux également, ils ont leurs outils de travail. Également, ils répertorient le bois abattu dans le mois. La société également fait le même travail. Et nous déclarons ce bois-là et au niveau de le ministère et au niveau de la SGS. La SGS ayant déjà les chiffres là-bas. Après la réception des mouvements de bois au niveau du département des Eaux et Forêts, eux maintenant, ils vont sortir ce qu'on appelle les ordres de recettes. Les ordres de recettes sortent au nom de chaque commune. Donc, il y a l'ordre de recettes pour la commune de Nola, Salo, Bilolo, Bania et tout ça. Et également des ordres de recettes pour le trésor public. Trésor public, il y a les impôts, les domaines et autres. Les fonds forestiers, ou je ne sais pas si c'est KZF ou fonds forestiers. Donc, c'est encadré. Et maintenant, chaque société forestière est appelée à libérer des chèques barrés au nom soit du trésor public ou à chaque, au nom de chaque commune. Ce n'est pas des paiements liquides, ce n'est pas des paiements comme ça, mais c'est des paiements par chèque barré. Et on ne met pas au nom d'un individu, mais on met des chèques barrés au nom de chaque commune.
Pour que ça arrive au
conseil. Pour que ça arrive. Donc, ce chèque-là, moi, Timberland, maintenant, je fais un courrier, soit transmis au département des eaux et forêts, avec des chèques qui doivent aller au trésor, avec des chèques qui doivent aller dans les caisses des communes.
Pour les communes, pour le trésor, pour tout ce que votre société fait par mois, par exemple, pouvez dépenser 50 millions ou 100 millions.
Non, ça, c'est rien du tout. Mais je venais de vous dire, rien que la commune de Nola, ce que nous donnons dans cette commune, c'est entre 11 millions et demi à 12 millions par mois. Ce que nous donnons à la commune de Bilolo, c'est entre 2 millions et quelques par mois. Je donne, par exemple, l'année 2021. L'année 2021, quand vient à passer, nous avons donné à la commune de Nola 119 millions. Ça, c'est le chiffre de Timberland. Et monsieur Amande, c'est à vous maintenant de faire une idée d'une manière globale. Il y a combien de sociétés forestières qui interviennent dans cette commune? Si Timberland, à elle seule, arrive à verser, à l'année 2021, 119 millions dans cette commune de Nola, arrive à verser 116 millions à la commune de Wapo, arrive à verser 44 millions à la commune de Bilolo, arrive à verser 19 millions à la commune de Salo, ainsi de suite. Vous voyez les chiffres de Timberland.
On y revient avec pour parler de la gestion. Oui, monsieur, une de temps.
Voilà, c'est ce genre d'informations dont on a besoin pour comprendre les choses et qui confirme que les gens paient leurs taxes. Et souvent, je le dis, la plupart des sociétés s'acquittent de leur charges, leur cahier de charges, comme on a l'habitude de le dire. Mais c'est arrivé au niveau maintenant de ces communes. Le tableau est là, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Répartition des taxes payées par les sociétés forestières et à l'administration. Taxes de loyer, trésor, 70%. KSDF, 24%. AGDRF, 6%. Abattage, 40% au trésor, 24% au KSDF, 6% à l'AGDRF. Et les communes ont 30%. Idem pour le remboursement, 25%. Mais non, c'est 25-30% des centaines de millions qui sont versés dans les caisses des communes ou du trésor public. Voilà la problématique de la gestion du bois actuellement.
Et sur la taxation forestière, il est dit que les titulaires des permis d'exploitation et d'aménagement sont tenus au paiement d'une taxe de reboisement qui affecte les volumes en grumes exportés. Oui. Est-ce que cela est fait? Si oui, où vont les frais de taxation ou des taxes, monsieur Soulé, de merci. Votre ministère maintenant?
Merci, monsieur Armando. Comme vous avez entendu monsieur Christian et DG Agou, c'est la COMIFAC, la Commission de forêt d'Afrique centrale, vient à point nommé pour pallier à ces manquements. C'est pourquoi ce nouvel instrument, c'est pour harmoniser tout ce qui se passe dans ce milieu. Parce que au niveau sous-régional, on a constaté ce manquement. C'est-à-dire, la loi est là, les tests sont régis, mais il y a des manquements encore à ce niveau. C'est pourquoi la Commission de forêt d'Afrique centrale a mis en place un certain nombre d'actions à mener pour assainir ce milieu. Donc ce manquement peut être relevé à partir de plusieurs actions que la COMIFAC a citées ici. Par exemple, on a dit élaboration d'un guide de consultation et l'implication du public à tous les niveaux du processus de l'élaboration de l'étude d'impact de l'évaluation environnementale et sociale. Vous voyez, c'est pour dire qu'on veut mettre en place une approche participative, que tout le monde ait un œil, un regard sur tout ce qui se passe dans ce secteur-là. C'est-à-dire, la COMIFAC a constaté ce manquement et veut qu'une harmonisation soit faite au niveau sous-régional. C'est pourquoi ils ont commencé par les autres pays voisins. Ils sont maintenant au niveau de la RCA.
Mais avant de parler de COMIFAC, que fait concrètement votre ministère? Parce qu'il est dit que l'autorisation exceptionnelle de déboisement en domaine forestier protégé donne lieu au paiement d'une redevance par hectare. Est-ce que cette disposition du code forestier est respectée? Ça veut dire qu'on vous donne des moyens à base de tout ça. Par exemple, la société Timberland vous donne des moyens, de l'argent, pour que vous procédiez rapidement au reboisement après l'abattage des bois.
Vous savez que je ne suis pas du ministère des eaux et forêts.
Mais je parle de l'environnement, puisque c'est...
L'environnement est une entité à part, c'est un département à part. L'environnement est régi par le code de l'environnement que je vous ai cité tout de suite là. C'est la loi numéro 07-0.18 qui porte le code de l'environnement, mais l'aspect
La protection de l'environnement.
Le secteur forestier est pris en compte dans l'environnement. Mais oui, tout ça. Ce que vous parlez, par exemple, les recettes, ce n'est pas l'environnement.
Par exemple, pour protéger l'environnement, c'est vous, votre travail. Il vous faut un peu de moyens pour regarder ce secteur.
Effectivement.
Mais est-ce que vous recevez, par exemple?
Vous avez entendu M. Christian tout à l'heure, dans cette répartition qui a été donnée, la clé de cette répartition, l'environnement est cité nulle part. D'ailleurs, c'est pour dire que les recettes ne reviennent pas à l'environnement.
Oui, Monsieur Agou.
Oui, Monsieur Armando, je pense que vous êtes. La question que vous posez à Monsieur le directeur, c'est qu'il n'est pas bien
placé,
pour vous éclairer.
Oui, c'est
non,
ça.
Les choses sont claires. Les côtes parlent que chaque société forestière contribue dans le budget de chaque commune. Ces côtes parlent-là, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre à ces communes-là de faire des investissements, Monsieur Armando, de construire des dispensaires, des maternités, des bâtiments administratifs communaux, les écoles, ainsi de suite.
Et donc, ça veut dire que cela ne vous revient pas directement, mais vous donnez
non,
l'argent.
Non, c'est pas nous. Je vous ai dit ici, M. Abando, que les chèques sont libérés, c'est des chèques barrés, libérés au nom de chaque commune. Ça veut dire que personne d'autre ne peut toucher ce chèque, ni le ministère, ni n'importe qui. Ça veut dire qu'immédiatement, l'argent doit être censé aller dans les comptes de chaque commune. Alors, je n'ai rien à cacher. Ce qui se passe en réalité, c'est quoi, M. Armando? Vous êtes de la presse. Vous avez toutes les informations. Je ne sais pas pourquoi vous continuez autour du pot. Ce qui se passe dans notre pays, c'est quoi? C'est que, depuis 2007, on a institué un système faisant l'obligation à chaque commune de faire ce qu'on appelle le programme d'emploi. C'est-à-dire, aujourd'hui, si commune de Nola a 200 millions sur son compte, commune de Nola fait ce qu'on appelle un programme d'emploi. Mais c'est la signature de monsieur le maire de commune de Nola qui est sur le compte. Maintenant, il est obligé de faire ce qu'on appelle un programme d'emploi. Il dit, dans ce programme d'emploi, en associant le préfet, les sous-préfets, les notables, pour dire, bon, on veut faire tel investissement dans notre commune. Et ce programme d'emploi, il est obligé de venir ici à Bangui, au niveau département tutelle, dans un territoire. Et il y a une commission qui se réunit là-bas pour valider ce programme d'emploi. Vous comprenez? Pour donner le quitus à monsieur le maire d'engager l'investissement. C'est ici que vous, de la presse, c'est une des que nous qui est beaucoup écouté, ça se trouve que vous avez creusé pour savoir, mais si l'argent est arrivé sur le compte des salauds, mais cet argent-là, ça sert à quoi? Et qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est plus la société forestière Timberland, une société privée qui doit à venir pour justifier l'utilisation de cette somme d'argent.
Et ça, c'est voilà. Ce que monsieur Nota vous appelait tout à l'heure de la mauvaise gouvernance.
C'est ce que je dis depuis le début. Le débat est un tout petit peu biaisé parce que les concernés ne sont pas là. On va parler, on va donner des chiffres, mais la question principale du débat, c'est ça. Des Centrafricains ont appelé Ndekeluka pour savoir, on voit du bois traverser toute la République, on voit du bois partout, et dans notre salle de classe, il n'y a pas de bois. Qu'est-ce qui se passe? Poser la question aux spécialistes. Malheureusement, l'un des spécialistes des eaux et forêts n'est pas là. Monsieur Agou, au début, quand il disait que tout marche bien, c'est vrai, pour les sociétés, pas de souci. Ils font leur business, ils donnent la quote-part à l'État. Et qu'est-ce que fait l'État de tous ces gros moyens? Et cela ne date pas seulement d'aujourd'hui. C'est depuis des dizaines d'années que l'on évoque cette question de mauvaise gestion de toutes les ressources qui émanent de la gestion du bois centrafricain. Je donnais tout à l'heure des exemples de certaines villes. Parce qu'il y a aussi la question de la gestion, mais il y a également la question de la destruction de l'environnement. Quand vous allez dans la commune de Sotsunakombo, ou bien, je ne sais pas moi, vers Bozoum, ou bien dans certaines zones, on est en train de creuser pour trouver de l'or. Avec des grosses machines qui détruisent complètement l'écosystème, la faune, les arbres qui doivent être exploités par certaines de ces sociétés. Donc c'est là le problème. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de bonne gestion de toutes ces structures, ben les taxes vont toujours entrer et ça ne rapportera jamais rien aux Centrafricains. Un jour j'étais à Mbaïki, allez voir la mairie de Mbaïki, les portes de la mairie de Mbaïki, et vous allez me donner raison.
Là où on exploite même du bois.
Là où on exploite des bois, il n'y a pas de porte. Porte digne de ce nom, comme on dit. Il n'y a pas de porte. Il y a même, pour avoir un cercueil digne de ce nom, vous n'avez par exemple pas les métiers qui découlent de l'exploitation du bois, ne serait-ce que dans ces communes, alors que l'argent est donné. Moi, je suis maire de, d'une de ces communes comme Bilolo, Nola, mais c'est de faire de telle sorte que ce bois soit au moins exploité, travaillé sur place pour permettre de transformer. Même dans une certaine mesure, on ne va pas faire de l'ébénisterie industrielle comme on le fait en Europe ou au Cameroun, mais on peut arriver à ce niveau-là, de faire du métier du bois quelque chose de prioritaire. Dans quelle école on forme les menuisiers dans ce pays? Il n'y a aucune école qui forme les menuisiers, alors que nous sommes dans un pays de bois. Résultat, tous les meilleurs menuisiers nous viennent d'à côté. Voilà la problématique.
Oui, monsieur Agoum, si ça vous va, on prend à présent les réactions orales et écrites des auditeurs et internautes sur le thème du débat d'aujourd'hui.
Bonjour Armando, et nous vous disons merci pour l'occasion que vous nous donnez pour que nous intervenions. Et une petite question est à poser, c'est une très bonne question que vous avez posée. Et où vont l'argent des bois de notre pays? Et moi, ça fait des décennies que nos forêts sont exploitées par les Libanais, les Français, tout ça là. Mais aujourd'hui, dans nos écoles, on n'a pas les tables bancs et on n'a pas des routes. Or que ailleurs, ce que nous voyons chez nos voisins au Cameroun, les gens qui exploitent leurs forêts respectent les cahiers des charges, mais chez nous, c'est le contraire. Et plus grave encore, aujourd'hui, allez-y vers la route de Boda, car à 50 km de Boda, les Russes exploitent encore notre forêt là-bas. Et on se demande, est-ce que ce qu'ils font les Russes là, est-ce qu'il y a des fonds qui ont été versés à la Trésor ou au gouvernement de notre pays avant d'exploiter ces forêts? Ça, c'est plus grave encore. Et on ne peut pas exploiter une forêt avec des arbres. Il faut que, soi-disant, les conseillers, les quoi du gouvernement, il faut qu'ils nous disent est-ce que c'est vraiment possible ce qui se passe.
Bonjour Armando Yangendi, bonjour à tous ceux qui participent aujourd'hui dans l'émission Patara. Je suis Mahamat Idriss Yakizi depuis la ville de Berberati. Ce qui se passe maintenant dans notre pays, ce n'est que de laisser aller. Ce sont des choses que on ne peut pas comprendre. Notre pays dispose de ce qu'on appelle un cahier de charges. Et ce cahier de charges est signé entre le gouvernement et les sociétés forestières qui œuvrent dans notre pays. Dans ce cahier de charges, il y a des charges qu'on a attribuées à ces sociétés forestières. Quand ils mènent leurs activités dans certaines zones forestières, alors ils ont certains devoirs à réaliser dans ces zones-là. Il y a la construction de l'école s'il y a manque, et également la construction de la route. Il y a également certaines choses, la construction de l'hôpital, de dispensaires, etc., qui peut donner le minimum de bien-être à la population de cette zone. Malheureusement, ce qu'on constate, Armando Yangendi, c'est que le gouvernement, à travers ses représentants, envoie souvent des missions dans ces sociétés forestières pour prendre de l'argent. Et c'est de l'argent destiné à ce cahier de charges. Vous voyez, je ne peux pas beaucoup dire parce que notre pays, quand tu dis, on te pointe du doigt. Comprenez que nous sommes en train de vivre une vie de calvaire sur notre propre richesse. Et
voilà.
Je vous dis bonne suite.
Merci, bonne suite aussi à vous. Autre réaction écrite, commençons par Monsieur Géraud. Il n'a pas mentionné son quartier ou sa ville. Hein. Le monsieur se demande si une société ou un particulier veut exploiter du bois, est-ce que l'octroi du permis ou d'autorisation est validé par l'Assemblée nationale. D'après Frédéric Namboy, au village Sapango 1 sur la route de Mbaïki, secteur forêt selon lui, les autorités n'ont plus le contrôle de ce qui se passe dans les forêts ou dans l'exploitation des bois centrafricains. Les Libanais et les Congolais coupent les bois sans le respect de règles de l'art. Selon le monsieur, c'est parce que les autorités ont reçu des pots de vin et se laissent faire. Pas de suivi, pas de contrôle, a-t-il regretté. C'est tout. Poursuivons le débat dans le studio et de Radio Ndekeluka. Messieurs, si nous résumons les préoccupations des auditeurs, nous pouvons d'ores et déjà considérer les questions principales de nos discussions démocratiques d'aujourd'hui. De premier abord, sur le plan politique, l'on se demande pourquoi la République centrafricaine exploite du bois, mais ses écoles manquent des tables bancs. Comment expliquez-vous cela? D'abord, monsieur, ça c'est d'ordre général, ça n'a rien à voir avec l'environnement. Et monsieur Soulé.
Comme vous avez entendu nos compatriotes dire, on a cette difficulté, surtout pour la bonne gestion des choses, premièrement. Et il n'y a pas de suivi aussi à un niveau, parce que tout ce que nous faisons, actuellement nous sommes dans un monde où tout le monde doit avoir un regard sur tout ce qui se passe. Donc l'aspect participatif reste encore un problème pour le Centrafricain, il faut le dire, parce que beaucoup de choses nous échappent. Il y a des choses que nous faisons, on pense le faire pour les autres, mais je crois qu'on ne fait pas pour leur compte. On se dévie complètement des réalités des choses. Et ça, c'est mon avis personnel. Plusieurs choses nous échappent, nous échappe, surtout le fait de ne pas beaucoup en parler ou d'être un peu public. Beaucoup de choses nous échappent parce qu'il y a certaines choses, on ne peut pas le cacher. Il faut montrer à la population, il faut montrer aux autres ce que nous faisons. Et ça, ça va de la dignité de tout un chacun.
Oui, sur cette même question, M. Christian Emendota, les bois exploités, mais comme vous l'avez déjà mentionné, quelle est la bonne politique qu'on devait mettre en place pour aider les écoles qui manquent de tables bancs à en avoir?
Bon, moi je pense que tout ce qui concerne l'école, c'est la responsabilité déjà du gouvernement. C'est pas la responsabilité du secteur privé, même si il existe des écoles privées, même si ces écoles privées construisent des bâtiments, achètent des tables bancs, la responsabilité finale, c'est au gouvernement. L'éducation, c'est d'abord le gouvernement, c'est le problème du gouvernement. Et le gouvernement, c'est pas seulement le premier ministre, tous les ministres, mais il y a tous les démembrements jusqu'au simple agent. Moi, la solution que l'on pourrait prendre, et en tenant compte des chiffres qui sont publiés à travers soit les médias ou bien dans certains rapports. Moi, j'ai le rapport, par exemple, d'une société d'exploitation, dont je ne cite pas le nom pour ne pas faire de publicité, mais qui a quand même déboursé 154 millions de taxes forestières, notamment dans certaines communes, Bimbo, Pissa, Lessay, ainsi de suite. C'est ce que M. Agou disait tout à l'heure dans la zone, j'allais dire sud-est, avec Nola, Bilolo, ainsi de suite. Moi, je pense que l'une des solutions que l'on pourrait faire, bien sûr encadrée, c'est de laisser ces structures le faire. Moi, je vois cette société, pas très loin de chez moi, qui répare les routes, alors que la réparation des routes, c'est le domaine de l'État. C'est l'État qui doit construire des écoles. A contrario, c'est que ces sociétés payent de l'argent. S'ils ne payaient pas, j'allais comprendre, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la réalité. Ils disent, oui, bon, les Libanais, ils exploitent, ils ne payent pas. Non, il faut être... C'est comme pour la Mocaf. Bon, je ne fais pas la publicité de Mocaf. L'unique brasserie qui est ici, qui paye toutes ses taxes. Mais on vous dira que oui, mais pourquoi ils ne réparent pas ou bien ils ne donnent pas l'électricité à la zone parce que ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ils gagnent beaucoup d'argent, mais une partie de cet argent est reversée dans les caisses de l'État. Donc, on revient toujours à la question de la bonne gestion, de la bonne gouvernance de toutes ces structures. Regardez les tables bancs qui sont dans nos écoles. Récemment, et ça m'a fait mal au cœur, je tiens à le dire quand même, nous avons eu une cérémonie officielle avec les plus hautes autorités de l'État au lycée de Fatima. Les tables bancs que j'ai vues qui ont été données au lycée de Fatima ne sont pas dignes de la République centrafricaine qui est un pays de bois. Et vous allez à l'école La Kwanga, vous allez voir certaines classes de l'école La Kwanga qui ont de très beaux tables bancs avec des armatures en fer qui sont très bien faits. Mais qui a fait ces tables bancs? Ça vient de l'extérieur, alors que nous pouvons le faire ici. C'est-à-dire qu'on a tendance à minimiser nos capacités en termes de fabrication de tables bancs. Vous voyez les tables bancs, vous allez aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle l'INRAP, pas en face de l'école normale supérieure, vous allez voir les morceaux de bois qui sont, moi je dis bien des morceaux de bois, qui vont être utilisés pour la fabrication de tables bancs. Quand on fabrique, quand on exporte, quand on exploite du bois dans ce pays, on aurait dû trouver des moyens d'avoir du bon bois. Finalement, lorsque l'on amène ces bois blancs, parce qu'en fait c'est des bois blancs, du bois de mauvaise qualité, qui sont utilisés et tapés avec des clous au bout de 3, 4, 5 mois, avant la fin de l'année, vous voyez, vous allez dans les différentes écoles, que ce soit le lycée de Gobongo, le lycée de Martyrs, vous allez voir tous les bancs, la plupart des bancs sont cassés parce que sont très mal conçus ou conçus va vite, alors que l'on sait que l'argent est injecté, des centaines de millions, parfois 200, 300 millions pour la fabrication de ces tables bancs. Donc la question de la bonne gestion, je pense qu'il faudrait peut-être essayer, comme on l'a fait pour les écoles catholiques, vous prenez par exemple l'école Saint-Paul-Fille qui a été construite par l'église catholique, c'est de rétrocéder la gestion de ces secteurs-là au privé. Au lieu que Tiberland ou bien Centrabois ou je ne sais pas encore, SCAD ou bien je ne sais pas quoi, donne des millions, pour ne pas dire des milliards, dans les caisses de l'État qui se dilapident, qui se volatilisent, mais on demande à ces structures... Bon, vous devez payer par exemple 30% de taxes, 70% de taxes d'abattage au niveau du trésor public, mais on donne la possibilité que 30% soit utilisé directement pour la construction de ces écoles, pour la réhabilitation de ces routes, pour les maternités, pour les hôpitaux, ainsi de suite. Essayons de voir de ce côté-là.
Ça veut dire que si aujourd'hui on donne de l'argent pour la construction des hôpitaux ou bien des centres de santé ou bien pour payer des tables bancs construites des écoles, et si ça ne tient pas, il va falloir, selon vous, remettre cette partie de gestion aux sociétés directement.
Mais tout à fait. Mais c'est ce qui se fait, par exemple, à celui qui est sur la route du PK9, PK10, dont je ne cite pas le nom. Il y a une société d'exploitation de bois ici qui construit des écoles. Vous arrivez même à la mairie de Bimbo, vous verrez le nom sur certains de ses ouvrages. Bon, c'est une forme de compensation, mais les obliger à le faire, je pense qu'ils le feront. Si l'argent était bien utilisé, pas de souci.
À la question de savoir à qui profite le revenu d'exploitation de bois centrafricain, que direz-vous, monsieur Agou?
Monsieur Armando, je pense que les intéressés, ceux qui normalement vous devez convier à ce débat, ne sont pas là. Qui gère les communes?
On les a invités, mais ils
ne sont
pas.
Qui gère les communes dans notre pays? Qui est ce département qui gère les communes, les maires? C'est l'administration du territoire, si je ne me trompe pas. Alors donc, monsieur Armando, il y a l'incompréhension totale. Je vous ai dit dès le départ que les activités d'exploitation forestière vraiment est encadré par la loi. On parle de cahier de charge qui n'existe pas. Avant que la loi 08.022, comme je l'ai dit, du 17 décembre 2008, a été votée, effectivement, il y avait un document qui existait appelé cahier de charge. Dans ce document, le gouvernement prenait soin de dire à la société de faire ce genre de choses que le frère venait d'expliquer. Construire des écoles, faire des investissements dans cette commune là où la société exploite. Bon, maintenant, les choses ont été améliorées. On a demandé à chaque société forestière de verser dans le budget de fonctionnement de chaque commune les 30% hein, de taxes d'abattage et 25% de taxes de reboisement. Donc cet argent que je venais de vous donner, le chiffre de Timberland, aurait dû servir à ces communes-là de faire ce que vous êtes en train de dire. Et donc, malheureusement, si ça n'a pas été fait, on ne va pas venir reprocher aux sociétés forestières. Donc, en ce qui concerne le cahier de charge, le cahier de charge n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de gestion. Donc, c'est le plan d'aménagement et de gestion qui existe, il n'y a pas de cahier de charge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, les sociétés forestières, nous souffrons. Nous sommes des privés. Une société privée est là pour gagner de l'argent. C'est pas pour perdre de l'argent. Oui. Nous ne comprenons pas que, de l'autre côté, on nous demande de verser 30% de notre chiffre que nous réalisons donc pour le fonctionnement des communes. Et encore, on nous demande de faire d'autres investissements. Ce qui se passe, c'est quoi? Compte tenu des relations, parce que vous savez, Armando, exploiter la forêt, c'est des investissements à hauteur des milliards. C'est des matériels lourds qu'il faut acheter. Et donc, ça coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qui se passe? Comme nous savons qu'il y a l'incompréhension totale, la population n'est pas suffisamment étayée, suffisamment éclairée de mode de fonctionnement de société forestière. Parfois, on confond tout. On pense que les sociétés forestières qui doivent construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des routes, etc. Donc, parfois, nous sommes obligés de le faire en plus de ces sommes d'argent que nous donnons dans ces communes-là à faire des investissements. Et ces investissements-là, ça nous coûte beaucoup d'argent. Mais seulement, je prends le cas de la société forestière Timberland. Aujourd'hui, où je vous parle, vous avez toutes les possibilités de vérifier, Timberland est en train de réhabiliter la route Beberati, Carnot, sur fonds propres. J'ai dit bien sur fonds propres.
Plus de 100 km.
Voilà, ce n'est pas la société forestière privée de réhabiliter la route. Mais comme la route est dégradée, et c'est là où nous passons avec nos camions, nous sommes obligés d'intervenir pour réhabiliter ce tronçon-là. Et ça va être au bénéfice de la société et également de la population. Donc, je donne encore des exemples.
En plus de ce que vous payez en
l'état. En plus de ce que nous payons. Je donne un exemple simple. Il y a une école de l'État qui se trouve dans la ville de Nola, école KDI. Quand j'ai visité cette école à Sikekompe, de CI jusqu'à CM2, il y avait un seul enseignant titulaire. Il est en même temps directeur de cette école, de CI jusqu'à CM2. Le seul enseignant titulaire qui enseigne CM2, CM1 et CM2. Quand il y a le concours d'entrée en 6e, néant. Et j'étais obligé d'informer les autorités et la société Timberland privée à procéder au recrutement des enseignants qualifiés. Pas de maîtres par an. Des enseignants qualifiés qui sont depuis plus de 5-6 ans des salariés de la société Timberland. Ils sont payés par Timberland, mais ils enseignent dans une école
de l'État.
Publique de l'État. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça que nous faisons pour aider. Moi, je suis centrafricain d'abord, pour aider notre pays. Mais cela ne dit pas que c'est écrit quelque part que nous devons le faire. Mais il y a le plan d'aménagement qui sont là. Nous sommes tenus de respecter ce plan d'aménagement. Et c'est clair et net. Et nous devons payer mensuellement ces taxes d'abattage et de reboisement et au trésor public et dans les caisses de communes. Donc maintenant, je vous demande de vous rapprocher du ministère en charge de l'administration du territoire pour poser des questions là-bas. Comment est géré ces sommes d'argent que chaque société forestière verse dans les communes de leur zone d'exploitation? L'affaire est si simple. Et c'est là-bas qu'on va vous donner des explications. Mais ici, moi, je ne peux pas, je suis une société privée. Quand je donne de l'argent, Monsieur Armando, la loi me demande de vous donner 10 000 francs. Je vous donne 10 000 francs, j'ai pu aller voir qu'est-ce que vous faites avec...
Et la gestion, non, ce n'est pas votre cas.
Ce n'est pas mon problème. Donc, allez là où vous devez poser des questions et les intéressés pourront vous éclairer.
Monsieur Ndota, monsieur Soulé, vous avez quelques mots, je vous vois remuer la tête tout à l'heure.
Juste un dernier mot, comme a dit un grand homme Gandhi, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, n'est pas à mon bénéfice. Donc, c'est mieux de faire quelque chose pour quelqu'un et le faire savoir à la personne même.
Oui, monsieur Ndota.
Oui, à chaque fois que j'arrive dans ce studio, j'utilise un terme, la question de bonne gouvernance, de bonne gestion. Tout se résume à ces deux termes. Tant qu'on ne gère pas bien nos ressources. Aujourd'hui, on parle du bois, mais il y a toutes les ressources de manière générale. L'un de vos auditeurs, je l'ai écouté, il a donné un exemple palpable de l'utilisation, de l'exploitation des forêts par des personnes en armes. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement. Mais maintenant, les sociétés donnent de l'argent. Mais au moins qu'on utilise cet argent-là pour faire quelque chose de positif, surtout dans le domaine des domaines sociaux, éducation, santé. Qu'on donne au moins le minimum. La société dont je vous parle, qui est à quelques kilomètres de chez moi, mais qui entraîne, comme l'a dit M. Agou, qui emploie, qui paye des enseignants. Et pas seulement des parents. Les maîtres parents, ils payent des enseignants, alors que c'est de la responsabilité de l'État. Quelque part, on voit que le gouvernement est démissionnaire de ce côté. Démissionnaire en ce qui concerne la gestion, j'allais dire, d'ordre général, mais elle récolte bien tous ces fonds. Qu'est-ce que l'on fait de cet argent qui est versé dans le caisse du Trésor? 70% par-ci, 60% par-là. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on fait de ces fonds que les différentes sociétés? Et il y a beaucoup de projets. On parlait tout à l'heure de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Mais à travers cette commission, vous entendez parler du PARPAF, des programmes de ceci, des programmes de cela. L'Union européenne injecte des millions d'euros pour permettre justement, ils le font, pas pour les beaux yeux des Centrafricains, parce que nous sommes dans un écosystème. Si les forêts d'Afrique centrale sont déboisées à outrance, on va se retrouver comme ce qui se passe actuellement vers l'Amazonie, avec le changement climatique, ainsi de suite. Donc, si certaines personnes pensent déjà à l'avenir de la planète, à l'avenir de notre pays à travers ses forêts, et c'est ce qui se passe, que ce soit à Bayanga, un peu partout, c'est qu'il y a une conscience humaine qui est là. Mais nous-mêmes qui sommes concernés, qui humons l'air produit par l'oxygène de ces forêts, on détourne cet argent et ensuite on cherche des boucs émissaires. Je voulais quand même revenir sur un exemple avant je termine. Vous allez par exemple, on parle de reboisement. Vous allez au lycée Boganda. Vous voyez les arbres qu'il y a au lycée Boganda. Mais j'ai pris cette initiative en 2008 avec des scouts, avec le programme des volontaires. On devait organiser une activité coïncidant avec le cinquantenaire de la ville de l'indépendance. Je leur ai dit, mais mon lycée, vous voyez, c'est nu, il faut des arbres. Et on a planté des arbres. Vous voyez, en 10 ans, les arbres sont là. Mais c'est aussi une occasion d'interpeller le ministère de l'Environnement. Il faudrait qu'il y ait un suivi pour ces arbres. Vous voyez, ces arbres, ça se casse, on n'arrive même pas ne serait-ce qu'à entretenir. C'est pas moi, monsieur Ndota, qui va aller monter tout le temps, aller couper les branches pour réajuster, pour que ça pousse bien. Il y a des spécialistes de ce côté-là. Et vous voyez, il y a des arbres qui se cassent et qui tombent sur le mur qui a été construit. Voilà un exemple. Et pourtant, on ne m'a pas donné un seul rond pour le faire. Je l'ai fait parce que je me dis, les arbres, c'est important pour que l'air soit dans les différents établissements scolaires. Ça donne de l'air, ça donne de l'énergie et ça permet aux élèves d'étudier ou bien pendant la récréation d'être dans de bonnes conditions. Voilà des exemples terre à terre que l'on pourrait multiplier un peu partout.
Oui, monsieur Agou, vous voulez répondre quelques secondes.
Je voulais quand même revenir une minute seulement. J'ai entendu parler de table banc, les écoles manquent de table banc. Je me pose toute cette question, je suis souvent étonné. Seulement, vous savez combien de mètres de bois on peut fabriquer une table banc? Prenez 3,30 là. 3,30 de 6 mètres, c'est largement suffisant pour qu'on peut fabriquer ce table banc. Et ça coûte combien sur le marché? Donc, c'est pour dire ce que M. Ndota vient de dire. 3,30 là, de 6 mètres, c'est suffisant pour vous fabriquer une table banc pour mettre dans une salle de classe pour que deux ou trois enfants puissent s'asseoir là-dessus. Donc, je pense que le problème n'est pas là. C'est, en résumé, c'est un problème de gestion. C'est un problème d'utilisation de fonds que les sociétés forestières versent régulièrement.
Et c'est la fin du débat politique d'aujourd'hui sur Radio Ndekeluka. Je rappelle que nous avons parlé de l'exploitation des bois centrafricains et ses corollaires pour le pays. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Merci à vous, monsieur Augustin Agou, directeur général de la société d'exploitation forestière Timberland, ancien député du premier arrondissement de Bangui et président du parti La Renaissance pour le développement RDD. Monsieur, merci.
Merci beaucoup, monsieur Armand.
Merci beaucoup à vous, monsieur Gida Soulé.
Merci, monsieur Armando.
Directeur général de l'environnement, Christian Emendota, merci d'avoir préparé ce rendez-vous, journaliste indépendant et observateur de la vie sociale.
Merci Armando, merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis.
Voilà, merci beaucoup à vous, merci d'avoir été des nôtres. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.